Bonjour à tous. Bon dimanche à tous. Le Seigneur vous bénisse richement. Voilà. Ce matin, nous allons faire une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9. Verset 24. Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez-vous de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible que nous courons. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Ça, c'est la version... comment elle s'appelle ? Archéologique.
Archéos.
Archéos, voilà. Je vous la recommande, c'est très bien. Dans d'autres versions, il ne parle pas de boxe. On a tous la faculté de penser et donc de nous parler à nous-mêmes. En fait, on n'arrête jamais. Ce bavardage intérieur ne s'arrête jamais. Et le problème, c'est que très souvent, il est négatif. Ça ne vous arrive pas ? Pensez-y, quand vous êtes seul, vous vous parlez à vous-même, de tout, de rien. Très souvent, c'est un gros mélange de n'importe quoi. Le plus souvent, c'est pas... Si on entendait tout ce qu'on pense, c'est un fourbi pas possible, là. Alors, il faut s'observer. On est en train de se parler de quoi ? On est en train de se parler de notre monde à nous, de notre petit monde. Et avec ce bavardage intérieur, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on maintient les perceptions de notre monde. Et si notre bavardage intérieur est fouillé, eh bien, les pensées que nous entretenons vont devenir des paroles qui vont être le début d'actes, le début de situations fouillées. C'est-à-dire que quand nous parlons à l'intérieur, nous sommes en train de renouveler, nous insufflons la vie, nous encourageons ces choses que nous pensons à devenir des réalités. Parce que nos pensées ne sont pas créatrices, mais nos pensées sont à la base des paroles qu'on va dire. Et les paroles, elles, sont créatrices. Nous avons été créés à l'image de Dieu, et Dieu crée par sa parole, et nous aussi. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons nous efforcer de mettre fin au bavardage intérieur, du moins en tout cas au bavardage intérieur négatif et fouillis. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. Quoique, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous faire comprendre quelque chose. Alors vous avez ceux qui pensent, et puis voilà, c'est le fourbi dans la tête. Et puis vous en avez qui vont plus loin, ils soliloquent. Et ça, c'est encore plus embêtant. Tout seul, et ils parlent. Alors maintenant, on voit beaucoup de gens, on croit qu'ils soliloquent, mais ils soliloquent pas du tout. Ils ont une oreillette. Puis on les voit dans la rue, voilà, ils parlent comme ça. Au début, maintenant, on fait plus attention, on sait que c'est quelqu'un qui téléphone. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui soliloquent, qui parlent tout seul. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour échapper aux limites de notre monde, parce que notre monde est limité, et c'est dommage parce que le monde est grand. Il y a tellement de choses à vivre, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à rencontrer. Il faut échapper à notre monde intérieur pour pouvoir connaître les autres, connaître d'autres cultures, connaître d'autres plein de choses. Dans notre monde, on est seul et puis on est enfermé. Je me rappelle, Mon père avait dit à ma mère, je t'aime, je t'adore, mais je suis quand même tout seul. Et c'est vrai, on est tous tout seuls avec nous-mêmes. Même si on est aimé, même s'il y a plein de monde autour de nous, on est quand même tout seul. Et d'avoir des conversations avec nous-mêmes, d'une façon inconsidérée, ça cristallise, ou même d'avoir des conversations avec nous-mêmes positives, ça cristallise les choses parce que nos paroles qui sortent après sont l'expression de ce qu'on pense. Heureusement pas tout, parce que comme on pense sans arrêt, heureusement on parle pas sans arrêt, mais on parle surtout des choses de l'abondance du cœur, des pensées, la bouche parle. D'accord ? Ça, c'est ce que la Bible dit. Et elle a raison. Nos pensées sont puissantes, elles nous enferment dans un cercle, d'où il est difficile de sortir. Quand on a un système de pensée, c'est difficile de changer. C'est comme pour toutes les habitudes. C'est très difficile de changer d'habitude. Et plus on devient vieux, plus ça devient difficile de changer les habitudes. Les vieux lèvent la main. C'est vrai, c'est comme ça. Parce que nos conversations intérieures, elles génèrent des émotions. Bref, comment échapper à ce cercle vicieux des conversations intérieures qui sont négatives? Comment y arriver? Si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que moi-même, je suis comme vous, j'ai ce bavardage, même pendant que je vous parle là, je pense à des trucs, machin, c'est terrible! Stop! Il n'y a pas de bouton hein, pour arrêter. Vous n'avez pas une zapette, vous, pour arrêter tout ça? Pour commencer, il faut savoir que depuis notre naissance, enfin, c'est-à-dire depuis qu'on est tout petit surtout, hein, eh bien, on utilise nos yeux pour juger le monde. On regarde, on apprécie, on évalue les choses, voilà, avec nos yeux. En fait, nous parlons aux autres de ce que nous avons vu premièrement. Hein, on dit toujours le choc des mots, le choc mais aussi le choc des photos. Les photos parlent. C'est terrible. Et ce qu'on voit, ça parle très souvent plus fort que ce qu'on entend. Bon, vous avez des gens qui sont plus visuels, plus auditifs, mais la plupart des gens sont quand même intrigués quand ils voient quelque chose, plus que quand ils entendent. Parce qu'on arrive à être là et puis blablabla, les autres parlent, mais quelque chose qu'on voit, c'est waouh. Ensuite, généralement, après la vue, c'est l'ouïe qui est utilisée par chacun de nous pour juger le monde et pour évaluer les choses, les gens. Juger, ça ne veut pas dire condamner. Ça veut dire apprécier et mettre chaque chose à sa place, donner de la valeur à ceci et pas à cela, etc. Alors, je vous propose d'inverser les choses, d'écouter davantage et de regarder moins. Vous avez remarqué, quand moi j'étais petit et j'allais au catéchisme, on nous disait que pour prier, il fallait fermer les yeux. Alors, on fermait les yeux, puis il fallait mettre les mains comme ça. Et alors, on avait demandé, mais pourquoi? Alors, le pasteur nous avait dit, c'est parce que quand vous allez au lac, parce qu'il n'y avait pas trop de piscine à l'époque, quand vous allez au lac et puis que vous plongez, vous mettez les mains comme ça pour plonger. Je crois que ça ne se fait plus, enfin, je ne sais pas. Mais il nous dit, voilà, maintenant, là, vous plongez dans le ciel. Alors, bon, ça nous avait frappé notre petite imagination de gamin, et puis on fermait les yeux. Alors, c'était pas bête de fermer les yeux, c'est pas bête, dans presque toutes les religions on nous dit ça. Moi j'ai arrêté de fermer les yeux en priant quand je travaillais dans l'évangélisation à Teen Challenge. On avait un grand local, on recevait 3 fois par semaine à peu près 200 personnes, mais c'était des personnes de la rue, des personnes qu'on connaissait pas bien. Puis on avait remarqué que c'était pendant que tout le monde fermait les yeux pendant la prière, qu'il y en avait qui faisaient les poches et qui vidaient les sacs des dames qui étaient là. Donc, le directeur nous avait dit, surtout pendant la prière, ne fermez pas les yeux, regardez bien ce qui se passe, parce que c'est là qu'il y a le plus de vol, c'est pendant la prière. Et puis, c'est resté une manie, donc chez moi, très souvent, je prie les yeux ouverts. Mais fermer les yeux, c'est une bonne chose aussi. Fermer les yeux pour écouter les sons du monde avec une extrême patience. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être simplement là, de fermer les yeux puis d'écouter? Qu'est-ce que vous entendez? Il y en a qui entendent leurs acouphènes. Soyez attentifs à ce que vous entendez. On entend toutes sortes de choses, mais on ne fait pas attention qu'elles sont là. J'avais prêché quelque chose qui était à peu près semblable quand on était au château, et il y avait quelques frères de la communauté qui s'étaient moqués de moi, ils ne sont plus là maintenant. Mais c'était moqué de moi, donc je dis bon, ben, je laisse tomber, voilà. Comment est-ce qu'on peut penser que nos sens n'ont aucune raison d'être et aucune importance et que on n'a pas besoin de les maîtriser? Comment est-ce qu'on peut penser ça? C'est ridicule. On doit apprendre à maîtriser nos sens. Alors, réellement, si vous pensez que je dis n'importe quoi, ok, regardez l'heure, fermez Internet, stoppez, continuez à faire comme vous faites, si vous êtes content, si tout marche bien pour vous, tant mieux. Si vous n'avez pas besoin de cet enseignement, c'est bien, mais perdez pas votre temps, faites autre chose, ne m'écoutez plus. Moi, simplement, ce que j'essaie de faire, c'est d'aider des gens qui ont besoin d'aide, et les autres, ben, ils n'ont pas besoin de mon enseignement. Voilà, mais si vous pensez que peut-être ce que je peux vous dire va vous aider, alors écoutez. Notre corps, la Bible nous dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans notre corps, il y a des portes matérielles. C'est des portes matérielles à ce temple. Et ces portes, ce sont nos cinq sens. Si vous pensez que cela n'a aucune importance, d'utiliser ces portes d'une manière convenable, si vous pensez que vous pouvez utiliser ces portes n'importe comment, eh bien, surtout, ne perdez pas votre temps à m'écouter, fermez la porte et écoutez autre chose. Le toucher, c'est le troisième sens le plus en éveil. Après la vue et l'ouïe, c'est reconnu, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est pas moi qui l'invente, j'ai pas la science infuse. Alors, prenez le temps de marcher, parce que quand vous marchez, vos pieds sont en contact avec le sol. Maintenant, si vous pouvez marcher pieds nus, à cette époque-là, c'est un petit peu difficile, mais dans quelques temps, marcher pieds nus, pas sur le goudron, hein, sur le gazon, c'est mieux. Alors, prenez le temps de marcher, et est-ce que vous avez remarqué que dans toutes les armées du monde, on fait marcher les soldats? Vous n'êtes jamais demandé pourquoi. On fait marcher les soldats. Pendant un moment, chaque jour, marcher au début 5 minutes, pour moi 5 minutes c'est déjà énorme, j'aime pas trop marcher, c'est un exercice, je dois m'y forcer parce que j'aime pas trop. Et puis en marchant, je vais vous demander de faire un exercice, par exemple, il y a certaines armées, quand ils marchent, ils font comme ça, d'autres ils sont raides comme des piquets, il y a toutes sortes de façons, il y en a qui lèvent la patte très haut, hein. Moi, ce que je vous demanderais, c'est que quand vous marchez, vous serriez les poings, pas pendant 2 heures, mais vous marchez, par exemple, mettons 10 minutes, 1/4 d'heure, vous serrez les poings et vous marchez les bras raides comme ça, en ressentant ce que vos bras éprouvent quand vous serrez les poings fort en marchant. Tout ça, c'est pour impressionner votre cerveau sur autre chose que ce qu'il a l'habitude de vivre. Il faut casser les schémas. Ce qui compte, c'est d'attirer votre attention sur vos bras en crispant vos doigts de façon inhabituelle. On ne marche jamais comme ça. Eh bien, je vous demande de marcher comme ça. Pour que vous, votre cerveau ait une information différente. Ça va être différent et alors ça va casser un schéma. Faites ça comme un exercice marcher. En écoutant ce qui est à écouter, évitez de mettre des écouteurs pour écouter de la musique, écoutez la nature, pour briser les schémas, pour nous obliger à être soumis aux ordres des supérieurs. Ça, c'est dans l'armée. Mais la Bible nous compare à des soldats. Et dans l'armée du roi des rois, eh bien, nous devons marcher. Ça serait bien qu'on invente ce truc-là dans notre communauté de se mettre en rang puis marcher ou pas. Non, on ne va pas faire ça, c'est ridicule. Il faut que nous nous mettions sous les ordres. L'ordre doit venir de Jésus, notre maître, et non de nous-mêmes, de nos sens, de nos émotions, de nos impressions, de nos jugements, de nos préjugements. Dans l'armée, tous ces exercices ont un but, d'amoindrir notre capacité de penser par nous-mêmes pour pouvoir obéir spontanément quand un ordre est donné. Vous saviez ça ? Moi, je me souviens, quand je suis sorti de l'armée, vous savez, l'armée suisse, c'est pas une armée rigolote, hein. On a 4 mois intensifs, mais intensifs. Moi, dans mon groupe, il y en a 2 qui sont morts pendant ces 4 mois, tellement que c'est intensif. Ils ont droit à un certain quota de morts. C'est affreux. Mais c'est terrible. J'ai vu des athlètes, des mecs balèzes et tout, pleurer tellement que c'était dur. 4 mois comme ça. Puis après, c'est tous les ans 3 semaines. Et pour pas perdre de temps, on a nos armes et nos munitions et nos costumes à la maison. Tous les Suisses sont armés jusqu'aux dents, plus que les Américains. Après, c'est une question de discipline. Paul disait qu'il traitait durement son corps. Il dit que la vie est comme un match de boxe aussi. Comme une course aussi. La boxe, c'est une discipline. On ne monte pas sur le ring après s'être fait les ongles. Non. Il y a une discipline, il y a des exercices qui peuvent paraître fastidieux, ennuyeux, répétitifs. Mais ils sont obligatoires parce que quand vous montez sur le ring, vous avez acquis des réflexes. Et le chrétien, il doit acquérir des réflexes. Et il ne peut pas acquérir des réflexes s'il ne se discipline pas, s'il laisse son cerveau marcher, comme on dit en termes d'ordinateur, en mode...
Par défaut.
On ne doit pas le laisser marcher par défaut. Quand on laisse notre cerveau marcher par défaut, ça veut dire qu'on le laisse libre et il pense ce qu'il veut, n'importe quoi, à n'importe quel moment, et puis voilà, puis ça crée des émotions. Hein. Bon. Paul disait qu'il traitait rudement son corps, que la vie c'est comme de la boxe, c'est comme courir dans un stade, et il dit « moi je ne veux pas boxer pour battre l'air ». Il boxait dans un but contre l'adversaire. Alors vous me dites, bon, on va se mettre à boxer les démons. Non, mais hein, soyez un peu plus... C'est spirituellement que je vous parle. Mais les choses spirituelles passent par le corps. Nous avons un corps. En fait, c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre une personne, c'est son corps. Puis après, on voit l'esprit. Et nous, c'est la même chose. C'est surtout notre corps dont on est conscient. En ce moment, j'ai froid aux pieds. Je sens que j'ai froid aux pieds. Je peux mettre une veste, je peux mettre tout ce que vous voulez, j'ai froid aux pieds. Et c'est comme ça, je le sens. Pourquoi un sportif court ? Pour nous dire, obtenir une couronne qui va se détruire. Ok, et pourtant l'athlète s'entraîne chaque jour. Il s'impose des privations, il traite rudement son corps, et nous sommes... Dans la Bible, comparé à des soldats, à des coureurs et à des boxeurs. À des gens, donc, qui observent une discipline et qui pratiquent des exercices. Quel exercice pratiquez-vous chaque jour ? Qu'est-ce qu'il faisait Paul ? Il dit donc qu'il traitait rudement son corps, qu'il le disciplinait. Comment ? Je ne pense pas qu'il se flagellait comme ça se fait dans certaines religions. Je ne pense pas. Ça a été inventé après. Je ne pense pas non plus qu'il portait un cilice. Vous savez ce que c'est un cilice ? Je ne pense pas que c'était le genre de l'apôtre Paul. C'est venu après, hein. Mais il jeûnait, sans doute. Il jeûnait. Et quand on jeûne, on s'affaiblit volontairement. Quand on jeûne, on est physiquement affaibli, notre corps est affaibli, c'est-à-dire nos sens, nos émotions, tout se ralentit. Jeûner, je sais ce que c'est parce que j'ai très souvent jeûné, des fois 10 jours et même une fois 20 jours avec de l'eau. Moi, je ne suis pas Jésus. Hein. Jésus, c'était sans boire ni manger. Moi, je sans boire, sans manger, c'est... J'ai vu ce que ça donne en Afrique. En Afrique, ils ont une grande mode depuis plus de 20 ans. C'est de pratiquer le jeûne d'Esther. Alors, ils jeûnent 3 jours, comme la reine Esther. Et puis, énormément de ces gens qui jeûnent 3 jours, sans boire, sans manger, avec la chaleur, eh ben, ils finissent à l'hôpital, aux urgences, parce qu'il ne faut pas vous priver de boisson. C'est pas une nourriture, la boisson. Mais vous avez besoin d'eau. Donc, quand vous jeûnez, il faut boire. Si vous me dites que je suis charnel parce que je vous ai dit de boire, parce que Jésus ne lui buvait pas, faites comme vous voulez. Ça m'est égal. Moi, je vous donne des conseils plutôt quand même intelligents. Donc, je sais ce que ça fait quand on s'humilie, quand on traite comme ça notre corps par le jeûne. On devient plus sensible aux choses de l'esprit et on est plus lent à réfléchir, mais aussi on devient plus lucide. Ça nettoie notre cerveau aussi. C'est rigolo, hein? Il n'y a rien à faire. Le corps, l'âme, l'esprit, tout ça, c'est bien mélangé. C'est très difficile de savoir où sont les jointures. Mais si vous travaillez, vous ne pouvez pas jeûner 10 jours, 20 jours, ou alors pendant vos vacances. Ah, bonjour les vacances. On n'a pas tant de vacances que ça. Alors, si c'est en plus pour jeûner, pardon, mais bon. Moi, personnellement, le jeûne d'Esther, le jeûne de 3 jours, je vais vous expliquer, ça ne me sert à rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être dû au café que je bois, je ne sais pas. Mais pour ma part, quand je jeûne 3 jours, j'ai mal à la tête pendant 3 jours. Et quand j'ai mal à la tête, je ne peux pas être spirituel. Je pense qu'à mon mal de tête. Et puis en plus, j'ai une fringale terrible pendant 3 jours. C'est seulement, chez moi en tout cas, seulement au bout de 5 jours que la faim s'atténue, que j'ai plus de vision de steak frites, mais que je commence à être lucide sur les choses de Dieu et que quand je lis la Bible, des choses ressortent et elles sont beaucoup plus claires. Donc pour moi c'est comme ça, pour vous c'est peut-être autrement, mais 3 jours pour moi c'est l'enfer. C'est seulement à partir du 5e jour que ça commence à devenir spirituel. Et c'est seulement là que je peux commencer paisiblement à prier et à méditer. Chacun voit comme il peut et fait comme il peut, tout dépend hein, des toxines que vous avez emmagasinées. Du Nutella que vous avez mangé, surtout ces derniers jours. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé vous battre dans les supermarchés pour avoir votre Nutella. Alors, j'ai trouvé que le mieux, à part le jeûne, eh bien, c'est de pratiquer la discipline du soldat qui marche sans réfléchir. Parce qu'un soldat qui marche, il ne réfléchit pas. Il fixe un but vague dans le lointain. Quelque chose de non précis, on nous dit de faire ça. Vraiment, on nous dit de faire ça. Serrez vos poings, concentrez votre attention sur ce que ressentent vos bras quand vous serrez vos poings et que vous marchez, en écoutant ce qui est à écouter. Le bruit de vos pas, les petits osios, le ruisseau, le papillon qui passe en hurlant, enfin je sais pas, ce que vous voulez, ce qui se passe, écoutez attentivement. Essayez et vous allez constater que vos bavardages intérieurs vont s'estomper. Réellement, réellement, petit à petit, pas les premiers jours, mais petit à petit, ces bavardages intérieurs nuisibles, la plupart du temps, vont s'estomper. Et quand je dis marcher, je ne dis pas flâner ou faire du lèche-vitrine. C'est marcher comme un soldat. Je parle de la marche du soldat. La marche décidée, rythmée, énergique, j'appellerai ça une marche de pouvoir. Alors, vous prenez le pouvoir, vous marchez pour prendre le pouvoir. Vous avez remarqué que dans le monde entier, partout dans le monde, les gens marchent, défilent pour des causes de ceci, de cela. Tout ça, ça vient de l'inconscient collectif, d'un instinct profond, qui leur fait faire ça. Vous êtes jamais demandé pourquoi les gens marchent comme ça, défilent dans la rue, on veut plus de Nutella, on veut... Tout le monde défile pour toutes sortes de choses. Maintenant, il y a même des chrétiens qui défilent pour Jésus. Vous marchez en écoutant le regard dans le lointain pour discipliner vos trois sens, le regard, l'ouïe et le toucher. Ces trois sens sur cinq sont maîtrisés. Cela fait, si vous le faites 5 à 10 minutes au début, vous allez voir que ça va provoquer un choc en vous parce que votre cerveau s'est habitué à fonctionner en mode libre, sans discipline. Et là, il voit que vous prenez les commandes et il est content. Il aime obéir. On a été créé pour obéir à Dieu. Des gens me disent « Ouais, Michel, t'es un macho parce que tu crois à la Bible qui dit que les femmes doivent être soumises. » Mais une vraie femme, elle aime être soumise à son mari si son mari est un vrai homme. Ouh, je vais pas me faire des amis, là. On aime être soumis à Dieu. Un chrétien aime être soumis à Dieu. Il n'y arrive pas toujours. Pourquoi ? Parce que il a des habitudes et il ne brise jamais ses habitudes. Prenez les commandes et vous verrez vos bavardages commencer à s'atténuer et petit à petit se taire. Agissez ainsi sans attendre de récompense. Ne dites pas ça va venir quand ça. Non, pensez pas ça. Pensez rien. Juste pour vous entraîner. Comme un boxeur, quand il boxe, il ne pense pas. Non, il fait ce qu'on lui a appris, puis il le fait sans réfléchir. Le coureur, quand il court, il n'est pas en train de penser « Ah, je cours parce que dans 6 mois, il y a... » Non, il ne s'enquiquine pas avec ça. Il court. Le furet. Pour vous discipliner, pour vous entraîner, briser les routines, exécuter des actions qui sont dépourvues de signification. Vous savez que dans notre monde... On n'aime pas avoir l'air ridicule. Eh bien, ayez l'air ridicule de temps en temps. Si vous avez l'habitude, des habitudes, changez-les. Ça va désécuriser votre cerveau. Ça va l'obliger à opter pour d'autres schémas. Mais des choses toutes simples. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, si vous avez l'habitude de vous doucher avant de vous raser, ben faites le contraire. Vous allez voir. Moi, je me rase toujours avant de me doucher. Eh bien, je vais changer ça. C'est un exemple. Hein. Juste pour briser les schémas. Si vous avez l'habitude de boire un café le matin, buvez un thé. Juste pour vous exercer à briser les schémas, les routines, les habitudes. Si vous avez l'habitude de marcher pieds nus, enfilez des charentaises et marchez en charentaise chez vous. Ou si vous avez l'habitude de marcher en charentaise, marchez pieds nus chez vous. Changez quelque chose, même des choses idiotes comme ça. Mais faites-le comme des exercices. Mais ça va avoir, à force, avec le temps, des répercussions sur votre cerveau. Bref, cassez vos routines, ça amusera votre cerveau. Et ça le déstabilisera et vous pourrez prendre les commandes. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Alors, allez écouter une bonne prédication, n'écoutez pas Michel Jonton, allez écouter une bonne prédication que vous avez déjà entendue 100 fois. Par exemple, vous tapez sur Google « Zaché » et puis vous aurez tant de prédications sur Zaché que vous avez déjà entendues 100 fois. Quand vous entendez le pasteur lire un verset, vous savez déjà à l'avance ce qu'il va dire. Continuez comme ça, c'est une bonne routine. Non, tordez le cou à la routine, changez. Sinon, ben vous choquerez jamais train-train quotidien et tout continuera à aller comme vous aimez tellement que ça aille. Moi, je suis sûr que vous n'aimez pas comment ça va. La plupart du temps, les gens viennent vers moi et me disent « Ah, ils ne disent jamais « Ouais, c'est génial !» C'est rare. Je vous dis ça parce qu'il est important de penser clairement. La seule façon de pouvoir penser clairement, c'est de ne pas penser du tout. Vous allez me dire, bon, mais bien sûr. Le but qu'un disciple de Jésus vise, c'est quoi? C'est de rendre son mental aussi calme qu'un lac un jour où il n'y a pas de vent. C'est pas ça? C'est pourquoi la méditation... Et ces exercices sont des moyens de maîtrise et ne sont pas des moyens de fuite. Vous avez des gens, ils fuient leurs problèmes en méditant. C'est pas ça. Ils ont ça dans l'idée, c'est pas ça. La méditation et ces exercices vous permettent de gagner du temps et aussi une qualité, et d'obtenir une qualité de temps. Tous ces exercices qu'on nous fait faire à l'armée ont un but, c'est de faire de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes des gens disponibles et obéissants. Moi, quand je suis sorti de l'armée, au bout de 4 mois, si on ne me disait pas ce qu'il y avait à faire, je ne faisais pas. Hein. C'est pas que je ne voulais pas, mais j'avais tellement pris l'habitude d'obéir aux ordres, de ne rien penser. On pense à ma place, on me dit ce qu'il faut faire, que je faisais rien. Et je me rappelle, les premiers jours, j'étais avec le pasteur Francis Margot à Yverdon, et il était en train de mettre un faux plafond dans l'église. Il était sur l'échelle, et puis il attendait que je lui passe les plaques. Ben j'étais comme ça, je regardais, puis il me dit « Tu me la passes, cette plaque ?»« Ah oui !» Et j'ai passé la plaque. Puis après, je regardais. Alors, et la suivante? Ah oui, excuse-moi. Mais j'étais complètement... Voilà, je pensais plus. C'est l'armée m'avait formaté comme ça. Mais mes frères et sœurs, la Bible dit que nous sommes les soldats du roi des rois. Nous n'avons pas à penser par nous-mêmes. Nous devons penser les pensées de Jésus. Nous devons maîtriser nos pensées, attirer toutes nos pensées à Jésus-Christ. C'est pas écrit, ça? Vous trouvez que c'est plus intéressant de penser comme vous pensez? Non. Des gens qui ne pensent pas peuvent penser aux ordres de leur supérieur. C'est terrible à dire. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Ces exercices vous prendront un peu de temps, mais infiniment moins que d'avancer à l'aveuglette. Si vous avancez à l'aveuglette, vous allez perdre du temps, réellement. Si vous faites ces exercices, vous aurez l'impression de perdre du temps, mais en réalité, vous n'en perdrez pas. Par exemple, quand quelqu'un, notre frère Stéphane, qui fait de la muscu, et puis moi, de temps en temps, je joue aussi un petit peu, ça a l'air d'être une perte de temps. Il faut d'abord descendre jusqu'à la salle, ensuite, il faut changer, après, il faut faire les exercices. Et... Voilà. Mais ce n'est pas une perte de temps. Après, quand on voit le résultat, on est content, on est bien, on élimine les toxines, on se sent mieux, on est en forme. C'est jamais une perte de temps de s'exercer, même si les mouvements sont tout répétitifs, c'est toujours pareil. À l'armée, c'est répétitif et toujours pareil. Et puis tout d'un coup, on nous réveille à 2h du matin, on nous dit de mettre la tenue de sortie, comme quand on sort le dimanche, et puis on nous réunit dans la cour, on se demande qu'est-ce que c'est. C'est un exercice ridicule, ce que je vous disais, les charentaises, les machins. Un exercice ridicule. Et on nous dit de courir autour de la caserne, faire 10 fois le tour. Alors on est en sueur, tout. Puis après on nous dit, tout le monde dans les chambres, mettez la tenue de combat. Alors on enlève le machin, on met la tenue de combat. Et de nouveau, dans la cour, je vous rappelle, c'est à peu près 3h du matin, 3h moins le quart. Et rebelote, on tourne autour de la caserne. Et puis après, on nous rassemble, retournez dedans, remettez-vous en tenue du dimanche. Et ça y est, rebelote, on nous fait tourner. C'est ridicule. Puis il y en a qui ont compris, qui ont dit, plutôt que de me changer, je vais simplement mettre la tenue par-dessus l'autre tenue. Mais là, ils nous ont fait tourner 20 fois. Alors, il y en avait qui avaient 3 tenues. Il faut obéir, tout simplement, sans réfléchir. Quand Jésus dit quelque chose, on obéit, tout simplement, sans réfléchir. Voilà. Trouve un verset dans la Bible, tu obéis sans réfléchir. Voilà. C'est ça que Dieu attend de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on réfléchisse, mais quand on réfléchit par nous-mêmes, très souvent c'est un fourbi, négatif, désordonné. Il faut apprendre à maîtriser notre pensée. Pour maîtriser notre pensée, il faut faire des exercices. Ce que je vous dis là n'est pas enseigné en général dans les églises. C'est comme par exemple à l'école, on vous enseigne où se trouve le Rhône, où se trouve la Loire, où se trouve le Lot, dans quel sens il coule, s'il coule du sud au nord, du nord au sud, ça on s'en fout complètement. Mais par exemple, pour vous apprendre à des choses de la vie, ben non. Des choses pratiques, non. Bon, je suis content parce que hier, j'ai réussi à vivre toute ma journée sans utiliser le théorème de Pythagore. Vous voyez, il y a des choses plus importantes que d'autres dans la vie. Et à l'école, on nous apprend beaucoup de choses qui sont bien, mais on ne les utilise pas. dans la vraie vie. Par exemple, mes frères, là, ils sont en train de monter une boîte. Eh ben, tout ce qu'ils apprennent maintenant, à leur âge, on ne disait jamais. Enfin bon, passons. Les gens qui ne pensent pas et qui ne pensent qu'aux ordres des supérieurs, ça c'est bon dans l'armée, mais c'est aussi bon avec Jésus. Ces exercices vous prendront un peu de temps, mais infiniment moins que si vous avancez à l'aveuglette. Ce que je vous dis là, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui ont essayé et ils ont été gagnants. D'autres, ils n'ont pas essayé puis ils en sont toujours au même point. Moi, je vous dis, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu avant d'être en contact avec vous-même. Mais de façon disciplinée. Et pour être en contact avec vous-même, faites comme Paul. Disciplinez ce qui peut l'être. Est-ce que vous pouvez discipliner votre rate qui se dilate? Non. Est-ce que vous pouvez discipliner votre coccyx qui se dévisse? Non. Est-ce que... etc. Vous connaissez la chanson. Par contre, ce que je vous ai dit, vous pouvez le faire. Vous avez une emprise dessus qui va avoir une influence sur votre cerveau. Les armées s'en sont rendues compte et ils le font. Les boxeurs s'en sont rendus compte et ils le font. Les gens, les athlètes dans les stades s'en sont rendus compte et ils le font. Il n'y a que les chrétiens pour ne pas faire. Nous, on compte sur le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conduire, pour nous influencer, pour nous changer. Mais nous, on attend qu'il fasse. Bon, ben, quand on voit le résultat, c'est pas brillant. Il faut que vous aligniez au moins sur les cinq sens que vous avez, ces trois sens dont je vous ai parlé, la vue, l'ouïe et le toucher. Vous allez voir votre être tout entier s'aligner et devenir plus à l'écoute de Dieu. C'est pas ça que vous voulez? Faut pas rire de ce message, faut pas rigoler avec ça. C'est sérieux. On vit dans un monde d'agitation et cela vient du fait que les gens sont agités dans leurs pensées. Le roi David disait déjà, on trouve ça dans Actes 4, 24, « Pourquoi cette agitation parmi les peuples et pourquoi ces préoccupations dépourvues de sens ?» Déjà en son temps, et aujourd'hui c'est pire plus que pire. C'est parce que les gens pensent comme ils veulent, sans discipline, ils ne sont pas disciplinés au père des esprits. C'est tout. Les gens sont agités dans leurs pensées, dans leurs conversations intérieure, Jacques 1,6 nous dit que, nous parle des gens qui sont agités. Ils ne peuvent pas avoir la foi. Ils ne peuvent pas avoir la foi. Les gens agités ne peuvent pas avoir la foi. C'est Jacques 1,6 qui le dit. Alors que Dieu nous vienne en aide. Amen. Merci Jésus de nous aider. Et merci mon Dieu de permettre que je puisse enseigner ces choses et que cela bénisse mes frères et sœurs, tous ceux qui viennent écouter. Bonjour à vous les nouveaux qui nous avez rejoints grâce à Facebook maintenant. Que Dieu vous bénisse si vous écoutez ce message et que vous puissiez être des chrétiens pratiques qui réussissent et qui influencent votre époque. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Au revoir.